écoutez Connexion, le podcast du Prismian Club pour les professionnels de l'électricité, des télécoms et de la fibre optique. Connexion, c'est parti. Alors, on parlait à l'instant donc de prêts garantis par l'État, d'exonération de charges ou de décalage. Est-ce que vous pouvez un petit peu évoquer ces différents aspects?
Alors ça, c'est des mesures qui sont extrêmement intéressantes parce que si c'est du décalage, mais c'est vraiment du décalage. C'est-à-dire que quand on parle, parlons des emprunts, effectivement, ce qui est possible de faire aujourd'hui par simple demande à sa banque, dans la mesure où ça concerne des emprunts professionnels, c'est de reporter de 3 à 6 mois les échéances. Donc ça, c'est extrêmement intéressant puisque à la fin des 6 mois, on aura l'occasion soit de rallonger de 6 mois la durée de son emprunt. Donc là, c'est vraiment un gain de trésorerie. Pendant 6 mois, on n'a pas d'emprunt à rembourser et tout le chiffre d'affaires qu'on pourra générer ne partira pas, en tout cas en partie, dans le remboursement de l'emprunt. Évidemment, c'est pas gratuit. C'est-à-dire quand on reporte, quand on décale de 3 à 6 mois l'emprunt, il y aura des intérêts intercalaires pendant les 3 ou 6 mois. Enfin bon, quand on a un emprunt de 1 000 euros à rembourser par mois et dans les 1 000 euros, il y a 300 euros d'intérêt, 700 euros de capital, on évite quand même 700 euros fois 6 à rembourser. Ça peut sauver des trésoreries. Donc ça, c'est extrêmement important, je pense, de mettre en place. Ensuite, la façon dont seront remboursés les 6 mois qui ont été décalés, il y aura deux façons. La première, éventuellement, c'est de décaler de 6 mois la fin de l'emprunt. Donc pour moi, ça, c'est une vraie mesure de trésorerie. Ou alors, pour ceux qui pourraient saisir le mieux possible leur bon, dont l'activité reprendra assez vite, c'est pourquoi pas étaler les 6 mois de décalage sur la durée restante à courir. Donc là, je pense que les banques sont assez ouvertes par rapport à ça. Et là, à chaque chef d'entreprise de bien analyser ses besoins pour savoir de quelle façon il remboursera ce décalage. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus, c'est essentiel ce décalage de 6 mois parce que ça permet aussi à des bailleurs qui sont endettés de permettre à des locataires de suspendre leur loyer. Parce que cette mesure, je pense qu'elle n'était pas anodine. Ça permettait aussi justement de suspendre les loyers parce que le problème aujourd'hui, alors le chômage partiel est une super mesure, on y reviendra j'imagine, mais le loyer aussi est extrêmement important. Et les activités où le loyer peut représenter 10-15%, enfin 10% du chiffre d'affaires, c'est colossal. Donc même quand le chômage partiel est mis en place, quand on a tout mis en place, quand il y a encore 10% du chiffre d'affaires qui tombe tous les mois et qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, c'est extrêmement compliqué. Donc, l'âge de 6 mois est important parce que ça permet à des bailleurs de jouer la solidarité et aussi de suspendre le loyer. Et après, de la même façon, le bailleur et le locataire s'organiseront pour savoir quand est-ce qu'on rembourse le décalage. Est-ce qu'on étale le remboursement sur les 12 mois à venir? Est-ce qu'on... Voilà, il y aura quelque chose à trouver. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a effectivement le PGE, donc le prêt garanti par l'État, qui est une très bonne mesure. Donc l'État, ici, offre une enveloppe de garantie à hauteur de 300 milliards d'euros. Donc pour l'instant, il est à 300 milliards d'euros. Il faut savoir que l'Allemagne a joué à peu près la même carte, mais à hauteur de 500 milliards d'euros. Si vraiment le dispositif marche bien, est-ce qu'on peut s'attendre à une deuxième enveloppe? Ça, on verra bien. Pour l'instant, il faut savoir que l'enveloppe est loin d'avoir été consommée. Hein. On n'est certainement pas encore au tiers des 300 milliards d'euros, puisque il y a encore 2 jours, j'ai eu la chance d'assister à une réunion où l'un des responsables de la Banque de France intervenait pour expliquer un peu comment voyait la chose. Il y a 2-3 jours, on était qu'à 2-3 milliards d'utilisés. Donc sur 300 milliards d'euros, il reste encore un potentiel assez important.
Et comment vous expliquez ça, qu'il y ait à peine 2-3 milliards sur 300 milliards d'euros? Est-ce que les gens n'ont pas encore pris la mesure de la situation? Est-ce que les prêts ne sont pas octroyés?
Alors, je pense que... Alors, d'abord, tous les chefs d'entreprise qui sont suivis par un expert comptable, je pense que la profession joue le rôle à fond et accompagne le mieux possible les dirigeants. Non, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y a certainement beaucoup de dossiers dans les tuyaux aujourd'hui qui n'ont pas encore abouti. On se rappelle des encours qui vont arriver sur le marché certainement assez rapidement. Et puis aussi les banques qui ont des critères d'acceptation, parce qu'il faut savoir que les 90% qui sont garantis par l'État ne fonctionneront à terme s'ils sont actionnés que si la banque a accepté un dossier qui répondait aux conditions. Donc c'est pour ça, les banques vont pas dire oui à tout et n'importe quoi. Les banques vont faire extrêmement attention à ce que les critères soient respectés, parce que c'est parce que les critères sont respectés que les 90% de l'État joueront. On a les critères suivants qui sont d'abord un critère qui est important, c'est que quand les banques jouent le jeu, il faut que l'entreprise se porte bien avant le 16 mars et commence à avoir des difficultés après le 16 mars, c'est-à-dire que la difficulté financière doit venir exclusivement du coronavirus. Donc une société qui se portait déjà qui a des difficultés de trésorerie avant le 16 mars, théoriquement elle va avoir beaucoup de mal à contracter un emprunt dans le cadre du PGE auprès de... Il faut que les capitaux propres soient positifs. Donc ça, c'est des, on va dire, des critères qui sont assez classiques. Il faut que l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, soit aussi suffisamment important pour permettre le remboursement de l'emprunt. Et il faut aussi que la société ne soit pas en procédure collective, donc pas en redressement judiciaire. Bon, mine de rien, ces critères-là, en fait, sont pas plus souples que d'habitude. C'est les mêmes critères que d'habitude, et j'ai même envie de dire qu'ils sont presque plus restrictifs qu'avant, parce que le critère du 16 mars, il faut être en bonne santé avant le 16 mars, en mauvaise santé après le 16 mars, c'est un critère qu'on n'a pas d'habitude, dans le sens où d'habitude, on peut remonter beaucoup plus loin sans que la banque nous embête avec cette date. Donc, il faut espérer évidemment que les banques jouent le jeu, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à ceux qui en ont besoin, à ceux effectivement qui auront la possibilité de rembourser demain, parce que prêter à quelqu'un qui n'aura pas la possibilité de remettre, c'est pas lui rendre service. Pour deux raisons. D'abord, parce que ça va lui donner une facilité qui va peut-être lui éviter de prendre les bonnes mesures. Il va se retrouver éventuellement avec un emprunt de 30 000 euros qu'il ne peut pas avoir normalement compte tenu de ses conditions. Et donc, plutôt que de prendre des mesures assez fortes pour redresser la boîte, peut-être qu'il va s'asseoir un peu dans le confort, façon de parler, parce qu'il pourra s'appuyer sur ses 30 000 euros. Et quand il faudra les rembourser, malheureusement, il ne pourra pas. Et voilà. Alors, peut-être que si on n'avait pas prêté les 30 000 euros, peut-être que ça aurait été différemment. Et un point important, c'est ces 300 milliards d'euros. Évidemment, j'encourage tous les entrepreneurs, tous les dirigeants à faire le calcul de son besoin et à prendre. Je pense que la meilleure formule, effectivement, c'est de jauger, d'estimer son besoin. Et là, c'est pareil, je mets une alerte par rapport à ça, c'est que souvent, quand on discute avec les dirigeants, il y a un côté un peu court terme dans l'analyse. C'est-à-dire que souvent, on regarde ce dont on a besoin en avril, en mai, et puis on a l'impression que dès que le déconfinement sera fini, donc on suppose courant mai, bien qu'on n'ait
aucune assurance.
Une assurance par rapport à ça, on a l'impression que les besoins vont s'arrêter à partir de mi-mai ou fin mai. Je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Effectivement, peut-être que le confinement va s'arrêter mi-mai, fin mai, on verra bien, peut-être même en juin. Hein. Mais le problème, c'est qu'on va arriver très rapidement à juillet-août. Et juillet-août, même si beaucoup de salariés auront subi, entre guillemets, un chômage partiel, et donc quelque part du temps libre, mais un temps libre qui n'était pas sain, un temps libre qui était stressant, un temps libre qui générait l'anxiété, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc c'était pas un temps libre quelque part aussi reposant que des vacances. Je pense que le mois de juillet-août, faut pas croire que les salariés vont demander à travailler jusqu'au juillet-août pour rattraper les mois travaillés. Je pense qu'au contraire, les salariés vont demander à bénéficier de leurs vacances comme d'habitude pour vraiment faire un changement d'air, quoi, passer à autre chose. Et donc ça veut dire que juillet-août, imaginons que les mesures de soutien soient arrêtées, que les décalages ne soient plus possibles, que le chômage partiel ne soit plus possible pour X raisons. Juillet-août, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires et qu'en face, il y a cette masse salariale-là, je pense que la vraie complication va être là. Et donc, quand un dirigeant estime ses besoins, je pense qu'il faut aller au moins jusqu'au 31 août. Et ça, il faut vraiment l'estimer. Et dans le pire des cas, c'est-à-dire, quel est le chiffre d'affaires minimum que je peux faire? Et je pense pas qu'il faut prendre le maximum. Il faut surtout pas être ambitieux là-dessus. Ou pas, malheureusement, contrairement à d'habitude, il faut pas être plus fier que le roi là-dessus. Hein. Faut vraiment se dire, voilà, quelle est la somme d'argent dont je vais avoir besoin, éventuellement besoin. Et dans la meilleure des cas, c'est de se dire, j'espère pouvoir les rembourser d'un coup dans un an. C'est-à-dire, le financement m'aura coûté 0,25%, c'est-à-dire le coût des frais de dossier BPI. Donc, 0,25%, si vous faites le calcul, ça revient vraiment à pas grand-chose. Les 0,25%, il faut surtout pas que ça arrête les gens. Mais vraiment faire ce calcul, faire la demande à la banque, prendre l'argent. Il y a 300 milliards. Les 300 milliards, c'est pas un hasard. Pour vous dire d'où ça vient, avant le coronavirus, le montant des encours de l'endettement de toutes les entreprises en France représentait 280 milliards d'euros. Pourquoi 300 milliards? En fait, l'État donne la possibilité à chaque entreprise en moyenne de doubler cet encours pour le corona. Quand on prend du recul par rapport à ce que je viens de dire, ça laisse quand même un potentiel assez important. Toutes les entreprises ne se portent pas mal. Toutes les entreprises qui sont endettées ne se portent pas mal aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce que les entreprises qui vont bien ne prennent pas aujourd'hui, c'est autant d'argent que d'entreprises qui se portent mal pourront prendre. Donc bien faire son calcul, prendre ce qu'il y a à prendre. Attention au remboursement, parce que derrière, si on ne peut pas rembourser d'un coup au bout d'un an, on aura jusqu'à 5 ans. Et attention, les 5 ans qu'on aura à rembourser, tant mieux si on a pu récupérer le chiffre d'affaires, mais beaucoup d'entreprises ne récupéreront pas le chiffre d'affaires perdu. Je prends quelques exemples. Par exemple, les coiffeurs, toutes les têtes qui n'auront pas été coiffées en mars-avril, on n'ira pas se faire couper deux fois au mois de mai. Une fois qu'on aura été coupé la tête, on se fait couper les cheveux, on n'ira pas une deuxième fois. Je prends les restaurants, on n'ira pas deux fois au restaurant au mois de juin parce qu'on n'y a pas été au mois d'avril, au mois d'avril-mai. Donc il y a des activités comme ça. ça, ils ne récupéreront jamais le chiffre d'affaires. Et pourtant, on en aura besoin. Donc, sur des activités comme ça, il faut vraiment bien calculer cet encours. Ne pas se mettre en difficulté dans un an parce qu'on n'aura pas les moyens de les rembourser. Par contre, il y a des activités, je pense notamment à l'artisanat qui est très présente en France, et tant mieux. Quand on avait l'intention de refaire sa cuisine, bon, peut-être que par prudence, on ne va pas le faire en mars, avril, mai. Il y a de grandes chances que si on devait faire la cuisine au mois de mars, on aura toujours envie de la refaire au mois de septembre. Donc, les chantiers que les artisans n'auront pas fait durant la période du corona, il y a de grandes chances qu'ils les récupèrent un peu plus tard. Donc, des PGE sous ces activités-là, c'est plus entre guillemets, parce que on peut supposer, je dis bien, qu'on les rembourser parce qu'il y a certainement une surcharge de travail qui va venir après coup. Donc voilà, tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut surtout pas hésiter à se rapprocher de ses conseillers pour bien évaluer le besoin et vraiment profiter du PGE. Et je le répète, ne pas jouer le fier en disant je vais tenir, etc. Non, prenons le PGE. Je fais partie des gens qui croient à un rebond assez important à la fin du confinement. Je pense que les gens auront besoin de souffler, auront besoin de consommer. Il y a beaucoup de choses qu'on a reportées d'un point de vue professionnel qu'on a toujours envie de faire après le confinement. Donc je suis partisan d'une reprise assez intense. Et c'est pour ça, comme on le disait au tout début, préparez-vous à cette reprise. Organisez votre société pour saisir la balle en bon le mieux possible.
Merci de votre écoute et à très vite sur Connexion, le podcast du Prismian Club pour les électriciens et les professionnels de la fibre optique.